VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Nouvelle violence au Burundi, une grenade lancée aujourd'hui au centre-ville de Bujumbura, la capitale, a fait plus de 20 blessés, dont plusieurs graves dans le quartier cosmopolite de Buyenzi. Notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza, s'est rendu dans le quartier, son compte-rendu.
Une grenade a été lancée dans un sachet blanc en plein milieu de l'avenue de la Santé par un homme qui était à moto selon les témoignages sur place. 21 personnes qui étaient aux alentours ont été blessées selon la police. Elles ont été conduites pour les soins au centre de santé de Médecins Sans Frontières, Sizaki Gobe, un quartier nouveau situé vers le nord de Bujumbura. 9 personnes sont dans un état grave selon toujours la police qui indique que ceux qui ont commis cet acte ignoble ne sont toujours pas connus, surtout que c'était vers 11h GMT, une heure de grande affluence. Depuis la fin de la semaine dernière, où presque une dizaine de personnes avaient été tuées au nord et au sud de la capitale, une certaine accalmie relative était remarquée dans les quartiers contestataires. Alors que l'opposition burundaise appelle toujours à l'envoi d'une force de l'Union africaine ou des Nations unies, le gouvernement burundais affirme que la paix règne sur près de 99% du territoire burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Toujours concernant la région des Grands Lacs, les États-Unis ont accusé hier le gouvernement du Rwanda de chercher à déstabiliser le Burundi voisin, notamment en recrutant des réfugiés burundais pour les enrôler dans une opposition armée contre le président burundais Pierre Nkurunziza. Les précisions de John Lyndon.
Nous avons vu un certain nombre de rapports de nos collègues sur le terrain qui laissent penser que le gouvernement rwandais est impliqué dans des activités déstabilisatrices au Burundi, a déclaré la secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, Linda Thomas Greenfield, devant la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. C'est la première fois que le gouvernement américain met en cause directement et publiquement les autorités de Kigali dans la crise qui secoue le Burundi voisin. Pour Alain Nyamitié, ministre burundais des Affaires étrangères, les États-Unis doivent prendre des mesures concrètes parce que le comportement du Rwanda est contraire à toutes les normes internationales. Washington est historiquement un allié du Rwanda, mais les relations se sont beaucoup refroidies ces dernières années en raison du rôle jugé néfaste du régime du président Paul Kagame dans la stabilité de l'Afrique des Grands Lacs. Les relations entre le Rwanda et le Burundi sont au plus bas, Bujumbura accusant Kigali de soutenir ses opposants, voire de servir de base arrière à une rébellion naissante. Kigali a rejeté ces accusations.
Politique au Tchad. Le président tchadien Idriss Déby Itno briguera un cinquième mandat lors de la présidentielle du 10 avril. Dans son discours d'investiture mardi, il a promis de rétablir la limitation du nombre de mandats présidentiels, un verrou qu'il avait lui-même fait sauter par référendum en 2005. Maître Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du salut parti au pouvoir en N'Djamena, explique ce changement de cap.
Cela procède d'une logique très simple. En 2005, il fallait absolument sécuriser le pays parce qu'il y avait une menace de certaines personnes mues par leurs intérêts personnels d'attenter encore à la sécurité de l'État avec l'aide de certains pays voisins. Donc, ce plan était minutieusement préparé et donc, il a estimé qu'il fallait absolument défendre l'unité du pays et la sécurité de nos concitoyens. Il a fait sauter ce verrou et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il n'a pas été démenti. En 2008, cette horde de mercenaires avait déferlé sur N'Djamena. Heureusement, ils étaient repoussés. Et donc, maintenant, depuis 2008 jusqu'à maintenant, eh bien, on jouit d'une certaine tranquillité, sinon d'une paix certaine. Donc, il a estimé que les conditions étaient réunies parce qu'au jour d'aujourd'hui, les Tchadiens sont bien conscients que quiconque voudrait prendre le pouvoir par la force les trouverait sur leur chemin. Donc, il estime que le moment est propice pour pouvoir maintenant sérénement limiter le mandat pour permettre l'alternance.
Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du salut, était joint à N'Djamena au Tchad. Par ailleurs, l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré risque la perpétuité à son procès à Dakar. Le procureur du tribunal spécial africain qui le juge dans la capitale du Sénégal le poursuit pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Un procès inédit, le premier au monde, car jamais un ancien chef d'État n'avait été confronté à une juridiction de notre pays pour des violations présumées des droits de l'homme chez lui. Éric Manirakiza.
Le réquisitoire a duré près de 7 heures. Tour à tour, 4 membres du parquet, dont le procureur spécial Mbacké Fall, a réclamé une condamnation à la hauteur des crimes. L'accusation reproche à M. Habré d'être le véritable chef de service de l'appareil de répression pendant 18 ans de règne au Tchad. Une commission d'enquête a identifié 40 000 tués entre 1982 et 1990. Hissène Habré est l'unique accusé. Depuis l'ouverture du procès le 20 juillet 2015, il est resté silencieux et impassible, un comportement que l'accusation a qualifié de lâcheté envers les victimes, plus qu'une stratégie de défense. Celui qui s'est fait passer pour un dieu va réfléchir et savoir que ce qu'il a fait est mauvais, a déclaré Souleymane Gungeng, président fondateur de l'association des victimes de crimes du régime de Hissène Habré. En détention depuis le 30 juin 2013, il pourra purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine, mais aussi interjeter appel en cas de condamnation.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, un douanier et deux civils tués aujourd'hui à Ombori, dans le nord du pays. Une attaque attribuée à des djihadistes. Modi Ndiaye, le douanier tué, était venu prendre ses fonctions seulement hier, mercredi. Idriss Fala joint Aboubakar Samake, un habitant de Ombori, dans le nord malien.
5h50 exactement, des individus lourdement armés ont fait irruption dans la ville de Ombori, se sont attaqués au poste de la douane. Sur le coup, ils ont tué deux personnes, un douanier et un jeune de Ombori. Le second a succombé vers 6h30 suite à ses blessures à l'hôpital de Ombori. Les assaillants se sont dirigés vers le nord. Au moment de l'attaque, ils criaient Allah Akbar, Allah Akbar.
Après, les populations ont manifesté devant le poste de douane.
Oui, les populations sont venues. Le chef de village était même présent. Les populations ont manifesté leur mécontentement. Les gens ne se sentent pas vraiment en sécurité.
C'est à Ombori qu'on avait enlevé les deux Français dans un hôtel, non?
Oui, c'est à Ombori qu'ils ont enlevé les deux Français. L'hôtel se trouve vers l'est de la ville. C'est un bâtiment un peu isolé. C'est là-bas que les deux Français ont été enlevés. Et cette fois-ci aussi, il y a une attaque. Les gens ne savent même pas pourquoi ils sont venus faire cette attaque. Est-ce qu'ils se sont attaqués pour se venger des douaniers? Est-ce que c'est seulement pour mettre la piscose au niveau de la population? On ne sait pas pour le moment.
Aboubakar Samake, un habitant de Ombori dans le nord du Mali. Des représentants de 9 pays du Sahel sont réunis à Lomé au Togo pour valider un rapport de l'ONU sur la circulation illégale de plus de 8 millions d'armes légères dans la région. Présente à cette réunion, Olato Kumbo Ige, directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, nous en situe les enjeux.
Nous, au niveau de ANREC, nous avons cette responsabilité d'aider les États membres à avoir plus de capacités pour faire le marquage, le stockage et le traçage des armes. Dès que les pays ont plus de capacités de stocker leurs propres armes, maintenant on peut tracer les autres types des armes qui circulent dans la région. Il y a des autres agences qui travaillent sur le volet économique pour essayer de convaincre les gens de donner leurs armes pour avoir les avantages, parce que ici on dit que c'est un problème économique aussi. Donc maintenant, il faut retirer les armes pour leur donner une opportunité pour avoir le travail ou commencer un type de business ou entreprise pour avoir les moyens économiques.
Olato Kumbo Ige, directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Et maintenant, l'actualité dans le reste du monde. Conflit en Syrie. La Russie s'est dite prête aujourd'hui à discuter des modalités d'une trêve dans les bombardements en Syrie. Ce qu'exige l'opposition syrienne et les Occidentaux. Ces derniers imputent à la poursuite des frappes aériennes russes l'échec des négociations de paix à Genève. Nous allons à Munich pour discuter de cela, dit le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov, cité par l'agence Interfax. Les Occidentaux demandent aux Russes de stopper leurs bombardements aériens qui ont jeté des dizaines de milliers de civils sur les routes depuis le début de l'offensive des forces gouvernementales en février contre Alep, la deuxième ville de Syrie, dans le nord. La Russie a de son côté toujours affirmé que ces raids étaient légitimes et ne visaient que des cibles terroristes, tout en promettant de proposer des idées nouvelles à Munich pour avancer vers un cessez-le-feu. Et puis, les Iraniens ont célébré ce jeudi le 37e anniversaire de la révolution islamique par d'immenses défilés. Ces rassemblements monstres interviennent un mois après la levée des sanctions internationales contre l'Iran et à deux semaines des élections législatives cruciales pour le président modéré Rouhani. Celui-ci espère obtenir une majorité de députés favorables à sa politique d'ouverture et de réforme. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.